Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Docteur Pierre Magistretti, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler de votre nouveau livre, La corne d'Amon, les mystères du cerveau, qui paraît aux éditions Odile Jacob. C'est un livre absolument passionnant qui traite du sujet incandescent qu'est l'Alzheimer. Alors, le pitch de ce... C'est un polar scientifique et l'intrigue, c'est que 5 jeunes et brillants neuroscientifiques vont devoir résoudre des énigmes pour gagner la direction d'un nouvel institut de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Comment est-ce que l'idée de ce livre vous est venue ? Est-ce que ce n'est pas en corrélation, peut-être, et là je serai peut-être indiscrète, avec un événement de votre vie ?
Non, écoutez, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que j'ai eu une autre interview, enfin j'en ai eu plusieurs, mais une autre où cette même question m'a été posée. Alors, fort heureusement, non, en tout cas en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, en tout cas pour l'instant, ni pour moi ni pour mes proches, mais c'était une question qui avait été évoquée. Par contre, il y a plusieurs éléments dans le livre qui sont soit un peu autobiographiques, et peut-être vous aurez deviné, enfin vous ne connaissez pas, mais bon, il y a des côtés de Eduardo Gardelli, un des concurrents qui a quelques similitudes avec ce que j'ai fait dans ma carrière, donc notamment par exemple de faire ma période postdoctorale à l'Institut Salk à San Diego, où je faisais de la recherche sur justement les maladies neurodégénératives. Et puis, surtout, et certainement de manière plus intéressante, les personnages qui évoluent dans ce roman, en partie en tout cas, il y a des rappels de personnes que moi-même et mon épouse, avec qui j'ai coécrit ce livre, nous avons connues au cours de notre vie. Donc il y a un côté, qui est lié à...
Il y a une accroche.
Voilà, une accroche, mais on a mélangé un peu brouillé les pistes. Voilà.
Ah oui, avec c'est l'art de l'écriture. Alors, vous présentez bien sûr, donc ce livre est coécrit avec votre épouse Christine Magistretti. Vous êtes médecin, neuroscientifique, professeur émérite de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, des universités de Lausanne, UNIL, et de Genève, UNIGE. Et puis, Christine Magistretti, votre épouse, est infirmière et psychologue de formation, engagée fortement dans la promotion des droits des femmes dans le monde. Alors, tout ceci est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez conjugué votre écriture à quatre mains ?
Alors d'abord, c'est parti d'une, disons, parlons d'abord de comment on a conjugué notre écriture. Alors, en fait, on a eu l'idée en même temps. Nous étions, je ne vais pas révéler évidemment les énigmes, mais en tout cas, il y a un moment où qui va retourner dans le livre, et nous étions à Venise, dans le bar qui est bien connu, Harris Bar, bien connu le culte de la culture et du monde, les acteurs par exemple qui vont pour le festival de Venise vont toujours là. En fait, c'est un endroit très joli au bord d'un canal, et nous avons vu quelque chose dans ce bar qui nous a stimulé, parce que on a trouvé qu'il y avait c'était une image qui recelait en elle une énigme potentielle. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, et là c'est peut-être mon biais qui est entré en jeu, c'est que j'ai toujours eu une passion pour ce qu'on appelle la divulgation scientifique. J'étais très engagé au cours des dernières années, des 20 dernières années, même plus, pour essayer de présenter au public les nouveautés, les avancées dans le domaine des neurosciences, qui est mon domaine. Je suis médecin et neurobiologiste. Et donc l'idée est venue de dire, bien, on pourrait en fait faire de la divulgation scientifique, mais de manière un peu inhabituelle, au travers d'un roman dans lequel il y a une intrigue, dans lequel on peut tisser à l'intérieur de l'intrigue des points, des flashs sur des questions de neurosciences, donc expliquer par exemple la mémoire, les cellules souches, l'intelligence artificielle, etc., tout en ayant évidemment un fil conducteur qui est l'intrigue du roman. Et c'est de là qu'est venu, après, on a élaboré les idées, les énigmes, enfin, etc., etc. Pratiquement, ce qu'on a surtout fait après une phase initiale où on s'y est mis un peu comme ça pour faire le canevas du roman, on a eu de longues périodes où on n'a rien fait parce que bon, on était très pris tous les deux. On a 3 enfants. Maintenant, ils sont grands, mais bon, quand ils étaient petits, ça nous prenait pas mal de temps, nos vies professionnelles. Alors, ce qu'on faisait, on se retirait à la montagne. Nous avons un petit appartement à la montagne en Suisse. Et nous partions pendant 4 jours, 5 jours, et on se isolait complètement, sans aucune notion du temps. Et nous avancions alors là de manière très très forte. Alors évidemment, j'ai écrit plus les parties neuroscientifiques, mon épouse les parties plus romanesques. Mais enfin, on s'est consulté en permanence, surtout sur les qualités, les profils psychologiques des 5 personnages principaux, 5 ou 6 personnages principaux.
Alors justement, pour ce concours où il faut résoudre des énigmes, il est conseillé, nécessaire même, de se rendre pour les candidats dans les villes évoquées par les énigmes du concours. Comment peut-on décider du gagnant si en amont nous ne sommes pas dans la recherche? C'est-à-dire, le jury, vous n'avez pas encore trouvé la solution de l'Alzheimer, la solution précise, bien qu'il y ait beaucoup, beaucoup de pistes intéressantes et prometteuses. Mais pour au sein de ce livre, comment est-ce que le jury va pouvoir sanctionner les candidats si on ne sait pas trop quel est le fameux mot de cet Alzheimer?
Oui, alors, bien sûr, mais l'idée, c'est en fait de sélectionner par ces énigmes qui, en fait, font appel, bien sûr, à des connaissances neuroscientifiques, mais aussi à quelque chose de plus large, des questions géographiques, culturelles, historiques, de sélectionner le ou la candidate qui va gagner, donc qui résout les 5 énigmes dans le temps imparti. Et à partir de là, en fait, commencera cette nouvelle institut qui se consacrera à essayer de faire avancer les connaissances sur la maladie d'Alzheimer. La raison des énigmes, c'est que le donateur, l'instigateur de ce concours, Fred Lindenmayer, son épouse, reçoit le diagnostic d'Alzheimer. Et évidemment, il est bouleversé. Et se dit, bon, c'est un homme d'affaires très riche, il dit, je vais résoudre ça, je suis habitué à résoudre des problèmes, donc je vais prendre des meilleurs médecins, et voilà, la question sera réglée. Et en fait, il voit que malheureusement, il n'y a pas de traitement disponible, et il est révolté, il dit, il y a toute une partie du livre au début, où vraiment, il dit, c'est pas possible, c'est chercheur, il s'intéresse à publier des articles prestigieux, mais finalement, est-ce que vraiment ils sont motivés à soigner cette maladie, ils suivent des modes, voilà. Enfin, il est très aigri et il se dit, je veux sélectionner des jeunes chercheurs prometteurs et qui soient capables de penser en dehors des sentiers battus, qui soient originaux. Et il se dit que, il est conseillé par quelques amis fidèles qui l'ont suivi dans diverses phases de sa vie. Il se dit, je vais les sélectionner sur la base de ces énigmes qui feront appel à d'autres qualités que simplement les qualités scientifiques. Il faut qu'ils soient capables d'être courageux, qu'ils soient capables de réfléchir en dehors des sentiers battus.
Donc peut-être aussi un petit peu créatif, imaginatif, artiste, des gens qui vont dans la marge.
Oui, et en fait, très franchement, je pense personnellement qu'effectivement, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, les chercheurs, c'est le système général de la recherche qui favorise, disons, des pistes de recherche plutôt conventionnelles, parce que les systèmes de financement de la recherche font qu'il est nécessaire d'avoir quelques résultats préliminaires ou il est mieux de pousser un peu plus loin de manière incrémentale des pistes qui existent déjà pour obtenir des financements, pour publier dans des revues de prestige. Donc, paradoxalement, en tout cas, le système de recherche et de financement de la recherche actuelle tend à soutenir plutôt un type de travaux plutôt conventionnels. Et je dis ça, je tiens à le dire, je le dis pas d'un côté parce que j'aurais moi-même été frustré par ça. J'ai eu jusqu'à présent et je continue à avoir une carrière qui fonctionne bien. Je publie beaucoup dans des bonnes revues, donc c'est pas pour ça que je le dis. Mais je trouve que le système actuel mérite d'être critiqué. Il ne donne pas assez de chances aux chercheurs qui prennent des risques, qui partent sur des pistes nouvelles. Peut-être elles ne marchent pas, mais disons au moins on a plus de chances de trouver, surtout dans un domaine comme la maladie d'Alzheimer, où finalement depuis une vingtaine d'années, on a mis énormément de recherches, surtout dans une piste particulière, qui est celle de la protéine bêta-amyloïde, une protéine qui s'accumule, oui, dans certains cas d'Alzheimer, mais dans d'autres pas du tout. Mais il y a une sorte d'engouement pour les études sur cette protéine qui n'a finalement mené franchement à pas grand-chose. Il y a effectivement actuellement 2 ou 3 médicaments qui sont sur le marché qui ont récemment été approuvés par ce qu'on appelle la Food and Drug Administration, FDA, donc l'agence régulatrice américaine, mais qui, force est de constater, ont des effets minimes et même des effets secondaires assez même dangereux et pas du tout négligeables, comme des hémorragies cérébrales ou ce qu'on appelle des œdèmes, des gonflements du cerveau. Donc, cette piste a été suivie un peu de manière un peu obtuse et obsessive, sans succès. Mais il y avait beaucoup de financement pour ce filon. Et donc, finalement, Blindenmayer, et c'est par lui que je parle de ce que je pense de la recherche, se dit, il faut aller chercher d'autres pistes, d'autres voies, et pour ça, je veux sélectionner des jeunes qui soient capables qui fassent preuve de créativité, comme vous l'avez dit, et ce qui est absolument est de prendre des risques, prise de risque, et c'est ce qu'il faut dans la recherche par définition.
Exactement. Lorsqu'on ne trouve pas à côté, il faut aller dans des endroits qui sont encore vierges de recherche et puis qui sont atypiques. Hein. Alors l'Alzheimer, penchons-nous sur ce... Et je vais vous demander de nous en parler. Alors c'est une maladie neurodégénérative et on peut en mourir car les neurones règlent même les fonctions vitales. Alors l'Alzheimer...
Oui. Alors, donc, c'est une maladie, effectivement, neurodégénérative, ça veut dire donc que des neurones dégénèrent, meurent. C'est une maladie qui est liée au vieillissement, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de maladies, de patients souffrant d'Alzheimer aujourd'hui, et c'est pas une impression, c'est vrai, mais ce n'est pas... Mais c'est pas du tout même à cause d'autres facteurs. On a parlé de l'environnement, on a parlé de la vie stressante, en fait, toutes sortes de phénomènes qui caractérisent notre société. La réalité est très simple, c'est qu'on vit plus longtemps. Donc la chance de développer une maladie d'Alzheimer, qui est une maladie liée au vieillissement, eh bien, augmente. Voilà. Donc, elle se manifeste initialement par des pertes de mémoire, même légères, surtout liées à la... Surtout, pas de nouveau, pas exclusivement, mais à la mémoire spatiale. Donc les sujets sont un peu désorientés, ils se retrouvent dans des endroits et tout d'un coup, ils ne savent plus comment rentrer chez eux. Et puis, malheureusement, elle progresse. Et effectivement, des zones vitales sont atteintes et à la fin, le patient décède. Alors, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, il y a eu une piste qui est la piste de cette protéine et qui, au départ, si vous voulez, l'idée était en fait justifiée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les cas de d'Alzheimer familial, donc génétique, dont on hérite la cause... sont tous liés d'une manière ou d'une autre, sans rentrer dans les détails, à des anomalies dans le métabolisme ou les caractéristiques de cette protéine amyloïde. Sauf que ces causes génétiques de l'Alzheimer ne sont que, représentent que 1, 2, maximum 3% de toutes les maladies d'Alzheimer. Les autres n'ont rien à voir avec ces mutations génétiques qui affectent cette protéine. Mais il y a 20 ans ou 25 ans, lorsque ces découvertes ont été faites sur l'aspect génétique, eh bien, on a dit, voilà, si la forme génétique est due à des anomalies de cette protéine, eh bien, toutes les formes d'Alzheimer, tous les Alzheimer sont dus à des anomalies de cette protéine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va développer des médicaments qui dégradent ou qui éliminent cette protéine du cerveau. Et c'est là, je reviens sur ce que je disais, des ressources énormes ont été investies par l'industrie pharmaceutique, par les chercheurs académiques, avec des résultats malheureusement qui ne sont pas du tout probants. Ce qui a fait que d'autres pistes, pour lesquelles on avait aussi déjà, même il y a 20 ans, quelques évidences, en tout cas possibles, n'ont pas été ou très peu été suivies. Et j'en mentionnerai deux parce que je pense qu'elles sont maintenant, après, appelons-le quand même, un échec de cette piste amyloïde. C'est les phénomènes inflammatoires. Il y a clairement des processus inflammatoires qui sont en action dans les cerveaux de patients qui souffrent d'Alzheimer. Donc une idée, c'est effectivement d'essayer de diminuer la réactivité des cellules qui produisent l'inflammation dans le cerveau. Et puis une autre, qui est d'ailleurs celle que je poursuis depuis plusieurs années, qui est en fait de faire en sorte que plus d'énergie, plus de glucose, parce que le sucre, le glucose, c'est la source d'énergie du cerveau, rentre dans le cerveau. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que déjà avec le vieillissement normal, avec l'âge, on a moins de sucre qui arrive dans le cerveau, de glucose qui entre dans le cerveau. Le cerveau est moins capable d'utiliser le cerveau circulant, le glucose circulant, pardon. Mais dans les cas d'Alzheimer, évidemment, les observations indiquent que ce phénomène est nettement accentué, même avant qu'il y ait des symptômes cliniques. Si on prend des sujets qui ont les tout premiers, même très légers symptômes amnésiques, il y a déjà une baisse de cette consommation de glucose. Donc l'idée, c'est de dire, trouvons des médicaments qui vont augmenter la capacité du cerveau à consommer du glucose. Et il se trouve que les cellules dans le cerveau qui sont responsables pour importer le glucose à l'intérieur du cerveau, ce sont pas les neurones eux-mêmes, mais c'est ce que j'aime appeler l'autre moitié du cerveau, c'est-à-dire un autre type de cellules qui est tout aussi nombreux que les neurones, que sont les cellules gliales, G-L-I-A-L-E-S, les cellules gliales, qu'on en a longtemps considérées comme une sorte de glu, littéralement de colle qui tient les neurones ensemble, une sorte de matière inerte. Mais depuis les travaux, enfin nous avons contribué d'ailleurs dès les années 80, fin des années 80 et bien d'autres laboratoires maintenant, ont montré que ces cellules sont très actives, qu'elles répondent à des signaux des neurones et qu'elles sont responsables de l'entrée de glucose dans le cerveau. Et donc l'idée, c'est de dire, essayons de développer des médicaments qui ciblent ces cellules gliales pour qu'elles prennent plus de glucose dans la circulation, amènent de l'énergie aux neurones et donc les protègent. Donc cibler les cellules gliales pour protéger les neurones.
Alors ces cellules gliales ont une forme d'étoile, elles s'appellent astrocytes.
Absolument, parce qu'elles ont une forme étoilée et vous avez tout à fait bien dit, exactement. Et
quand vous les mettez en couleur, tout de suite, c'est comme ça qu'elles sont révélées, c'est comme ça que ces cellules gliales, qui sont des cellules comme collantes, hein, dont l'étymologie est la glu, est-ce que ce serait un petit peu comme le collagène pour le squelette, qui retient, qui réunit les choses, mais là, ces cellules gliales ont aussi une fonction de vecteur, puisque elles importent le glucose à travers le cerveau.
Voilà, c'est exact. Donc c'est bien plus que du collagène pour voilà. Les tissus périphériques, comme vous dites. Ce sont des cellules qui ne sont pas seulement de soutien structurel, mais fonctionnellement, elles produisent d'ailleurs plusieurs signaux utiles aux neurones et dont l'un, le principal, c'est de leur fournir de l'énergie lorsqu'ils sont actifs. Et il faut savoir que les neurones sont extrêmement glouton en énergie. En fait, le cerveau représente seulement 2% de la masse corporelle, mais il consomme 25% du glucose de notre corps. Et en fait, ce glucose est fondamentalement utilisé par les neurones, ou en tout cas des produits dérivés du glucose sont consommés par les neurones, mais les cellules qui importent le glucose dans le cerveau sont pour l'essentiel des cellules, les astrocytes.
Très bien. Alors, le glucose et l'oxygène brûlent et donnent l'énergie. Donc, l'essentielle force d'énergie provient de ce glucose et de l'oxygène. Comment se déroule cette combustion et où ?
Oui, alors c'est très intéressant ce que vous remarquez, parce qu'en fait, ce que nous avons démontré, c'est qu'en fait, ce glucose rentre dans ces cellules gliales, dans les astrocytes, et en fait, il n'est pas, justement, il n'y a pas une consommation d'oxygène immédiate. En fait, ce glucose est prédigéré, si je puis dire, en une autre molécule qu'on appelle le lactate. Mm-hmm. Et ce lactate est ensuite libéré par les astrocytes, recapté par les neurones, et c'est le lactate qui est pleinement oxydé à l'intérieur des neurones et produit le carburant de toutes les cellules qui est ce qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP, c'est vraiment le carburant pour tous les processus énergétiques des cellules et il est formé dans les neurones à partir d'un produit qui est dérivé du glucose qui a été prédigéré dans l'astrocyte.
Alors, la sénescence, quand on devient vieux, on entend régulièrement dire d'une personne « elle a perdu la tête », mais ce n'est pas l'Alzheimer.
Alors, c'est exact, dans le sens où il y a un chapeau ou un parapluie à l'intérieur duquel se définissent diverses formes de ce qu'on appelle des démences. Donc, le terme général de perdre la boule, pour parler, disons, de manière populaire, ce sont les démences. Et à l'intérieur de ces démences, il y a différentes causes. Il y a justement l'Alzheimer dû à un processus dégénératif. Il y a aussi ce qu'on appelle les démences vasculaires. À l'époque, on parlait, quand j'étais enfant, on disait qu'une personne avait l'artériosclérose. Il avait perdu la boule. Alors, on ne connaissait pas bien l'Alzheimer à l'époque. On mettait tout sous le chapeau vasculaire. L'idée est un peu la même. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, c'est le cerveau qui est moins capable d'extraire du glucose du sang. Dans l'artériosclérose, les vaisseaux sont un peu, en guillemets, bouchés et laissent passer moins de glucose. Mais dans les deux cas, en fait, on aboutit à ce qu'on pourrait appeler une crise énergétique du cerveau. Et qui affecte les neurones, donc il n'y a pas assez d'énergie disponible pour les neurones pour qu'ils fonctionnent bien, et donc ils sont beaucoup plus vulnérables à toutes sortes d'attaques et d'usures, tout simplement, même avec l'âge, et ne sont pas capables de garder une forte résistance, et d'où ils dégénèrent. Mais c'est vraiment une crise énergétique. On parle beaucoup de nos jours de crise énergétique. Oui. Eh bien, la maladie d'Alzheimer, c'est une crise énergétique du cerveau.
Mais ça n'a rien à voir avec l'Alzheimer. Ce n'est pas le même processus, ce n'est pas la même quantité de neurones qui dégénèrent. Si vous tracez deux parallèles, Alzheimer et sénescence, il y a des choses communes, mais il y a une belle différenciation quand même.
Oui, il y a des différences, bien sûr. Et d'ailleurs, la localisation des lésions et donc les conséquences neurologiques sont différentes. Mais disons un premier coup d'œil un peu, je dirais superficiel, global. Les démences sont vraiment, à la fin, aboutissent à la mort neuronale ou en tout cas à un dysfonctionnement neuronal. Entre autres, je ne dis pas que c'est le seul facteur, mais certainement un facteur très important qui est l'insuffisance d'énergie disponible. Et comme je l'ai dit, aussi à des processus inflammatoires qui causent des dommages aux neurones.
Alors là, nous allons atterrir sur le titre « La corne d'amont ». Les mystères du cerveau. L'hippocampe, donc, l'hippocampe est en jeu de façon très essentielle dans l'Alzheimer.
Alors, c'est cela. C'est pour ça que nous avons intitulé ce livre « La corne d'amont ». La corne d'amont est le terme que les anciens neuroanatomistes avait donné lorsqu'il disséquait pour les débuts de la neuroanatomie, lorsqu'il disséquait le cerveau, il voyait une structure qui avait une forme un peu, si j'ose le dire, biscornue avec plein de sinuosités, et ça leur avait rappelé la corne d'une divinité égyptienne qui était le dieu Ammon. Et donc ils avaient c'est une sorte de bélier avec des cornes très très biscornues. Et donc, ils ont dit, voilà, cette région, c'est comme, ça rappelle la corne d'Amon, de cette divinité égyptienne. Et puis, plus tard, un autre terme aussi un peu imagé a été donné, c'est celui d'hippocampe, qui est aussi des sinuosités. Et donc, ça, il a été remplacé par hippocampe. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'hippocampe marin.
Bien sûr.
Mais ça a un peu cette forme avec plusieurs sinuosités. Et alors, quel est le lien avec l'Alzheimer?
Voilà.
C'est qu'en fait, l'hippocampe, c'est là où se forment les souvenirs immédiats. C'est-à-dire lorsque, voilà, on aura raccroché, terminé cette interview. J'imagine que vous vous souviendrez de ce que j'ai dit, je me souviendrai de ce que je vous ai dit. Et cette information à court terme, dans nos cerveaux, va être encodée dans l'hippocampe. Elle est ensuite transférée à d'autres régions du cerveau d'une manière distribuée. Dans la maladie d'Alzheimer, l'hippocampe est une des toutes premières, si ce n'est la première région qui dégénère. Et c'est ce qui correspond d'ailleurs au symptôme principal initial de la maladie, qui est une perte de la mémoire à court terme. Si vous avez eu peut-être l'expérience de d'interagir avec ces personnes qui souffrent de cette maladie, surtout au début, ces personnes pourront vous dire dans les moindres détails des souvenirs de leur enfance ou même de leur vie adulte, mais seront incapables de se souvenir que vous l'avez vu le matin alors que vous êtes de nouveau avec eux l'après-midi.
Alors, il y a une protéine, l'APO, L'APO, lipoprotéine gradée à 4, 3, 2, 1... qui est vraiment très importante. Elle gère le métabolisme du glucose, quoi.
C'est cela, voilà, c'est cela. Je reviens brièvement. Donc, comme j'ai dit, le glucose est le carburant du cerveau. Il utilise un quart du glucose du sang, présent dans le sang et consommé par les autres organes. Et c'est cette... Moi, j'aime bien utiliser ce terme un peu comme ça, générique, de prédigestion. C'est que les cellules gliales, les astrocytes, captent ce glucose dans le sang, le prédigèrent et fournissent du lactate aux neurones qui ensuite peuvent l'utiliser pour fabriquer de l'énergie, donc de l'ATP.
Oui. Et cette gradation, l'apolipoprotéine 4...
Oui. Alors ça, c'est une question intéressante parce que comme je vous ai dit, les formes génétiques de la maladie sont rares. Donc quand on dit une forme génétique, ça veut dire que la mutation du gène va causer la maladie. Et c'est moins de 3%. Par contre, il existe une corrélation pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut dire, on ne connaît pas bien le mécanisme, mais une corrélation entre une forme d'une protéine particulière qui circule dans le sang que l'on appelle apolipoprotéine. Donc c'est en fait une protéine qui lie des lipides, le cholestérol notamment. Et on ne voit pas donc tout de suite quel est le lien avec le cerveau. Mais enfin, on a constaté que cette protéine peut exister sous trois formes qui sont des variantes de la même protéine, la forme 2, 3 et 4. Alors, la majorité de la population, je dirais 80%, 75%, exprime la forme 3, apolipoprotéine 3. Là, vous êtes neutre, vous n'êtes ni protégé, ni vous êtes à risque. Si vous avez la forme 4, apolipoprotéine 4, eh bien, vous faites partie de 13% de la population qui ont cette forme et qui ont 5 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. c'est une notion statistique. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez, si vous faites analyser votre génome et vous trouvez que vous avez la forme 4, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez développer une maladie d'Alzheimer, mais ça veut dire qu'en tant que groupe, vous faites partie d'un groupe qui a 5 fois plus de chances de développer la maladie. Si vous avez la forme 2, vous avez de la chance, vous êtes protégé, il n'y a pratiquement pas de patients qui ont la maladie d'Alzheimer avec la forme APOE2. Et donc, c'est un test, mais qui finalement, enfin, c'est une discussion que nous évoquons dans le livre, est-ce que ça vaut la peine de se faire génotyper pour voir si on a la forme 2, 3 ou 4? Parce que même si on trouve qu'on a la forme 4, voilà, d'abord, ce n'est pas du tout sûr, heureusement, qu'on va développer la maladie. Et deux, finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est finalement tout ce que nous devrions tous faire le plus tôt possible, mais certainement, je dirais, à partir de 60 ans, c'est essayer de vivre une vie le plus saine possible. C'est vraiment le style de vie, ne pas trop manger des légumes, enfin tout ce que tout le monde sait, on sait exactement ce qu'on doit faire, ne pas abuser d'alcool, faire de l'exercice, pas besoin de courir des marathons, mais faire des marches quotidiennes, c'est possible. En tout cas, au moins une demi-heure à une heure, deux, trois fois par semaine, minimum. Donc tout ça est tout à fait faisable par nous tous. Le régime, et puis aussi utiliser notre cerveau le plus possible, comme disent les Américains, use it or lose it, faut l'utiliser ou on le perd. C'est une formule bien sûr accrocheuse, mais voilà, donc c'est tout ce qu'on peut faire. Alors si vous avez la forme 4, je pense qu'il faut être vraiment le plus strict possible par rapport à cette règle de vie.
Alors, Pierre Magistretti, pour votre livre « La corne d'Amon, les mystères du cerveau » qui paraît chez Odile Jacob, aux éditions Odile Jacob, que vous avez coécrit avec votre épouse, est-ce que vous pouvez nous faire la prévision d'un médicament en vue ? Et quels sont les pays à la pointe de la recherche ? Alors voilà, dites-moi tout.
Écoutez, comme je l'ai dit rapidement en passant tout à l'heure, personnellement, j'ai misé sur la crise énergétique. C'est-à-dire que j'ai ma recherche, qui a d'ailleurs abouti à la découverte de ce rôle des cellules gliales, des astrocytes, dans l'importation de glucose dans le cerveau. J'ai développé, notamment avec une start-up qui est issue de mon laboratoire à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui s'appelle Glia Pharm, de manière pas très originale, Glia Pharmaceutique, des molécules qui stimulent justement, qui agissent sur les astrocytes et leur font capter plus de glucose dans le sang et produire plus de lactate. Alors personnellement, j'ai misé là-dessus, nous avons une molécule qui va entrer en phase 1 en début d'année prochaine. Le chemin est encore long parce que, comme vous le savez, il faut déjà s'assurer qu'il n'y a absolument aucun effet secondaire, on l'espère, en tout cas les tests précliniques le démontrent, mais ensuite il faut voir que effectivement ça marche, si j'ose dire, donc encore quelques années, mais...
C'est-à-dire combien de temps ?
À peu près. Écoutez, si tout va bien, mais vraiment, il ne faut pas le prendre comme argent comptant, parce que franchement, on peut se tromper énormément et il ne faut pas non plus générer de faux espoirs. Mais je pense entre 5 et 10 ans, ce n'est pas exclu que cette approche que nous avons développée ou d'autres qui sont en train d'être développées puissent apporter en tout cas une réponse à cette maladie.
Est-ce qu'il y a d'autres pistes concurrentes ?
Alors, il y a d'autres pistes que je ne définirai pas de concurrentes, parce que très franchement, comme vous voyez, pourquoi on a tellement de succès, il faut bien le dire, dans le traitement des cancers. Il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai commencé mes études de médecine, à part quelques rares cancers, tous les cancers étaient soit mortels à court terme, soit à long terme. Enfin, c'était vraiment, on était loin de thérapie du cancer. Or, aujourd'hui, on traite beaucoup, beaucoup de cancers et En fait, ceci vient du fait qu'on utilise différents types de médicaments qui ciblent différents mécanismes. Et je pense que pour les maladies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer en particulier, ce sera le cas. Donc je pense que la question de fournir plus d'énergie va certainement être importante. Je pense qu'il faudrait la combiner avec des approches anti-inflammatoires, aussi d'autres, peut-être cibler d'autres protéines que la protéine bêta-amyloïde, ou utiliser, on a vu pour le cas du Covid, qu'est-ce que a pu apporter les technologies autour de l'ARN messager. Je pense que là aussi, il y aura des pistes. Donc, en fait, je dirais que ce sera cette multithérapie d'où viendra la prise en charge et on espère le traitement, ou en tout cas retarder dans le temps le plus possible l'apparition de la maladie et des symptômes. Voilà.
Eh bien, Monsieur Pierre Magistretti, médecin neuroscientifique, et vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un livre absolument passionnant. C'est un roman scientifique avec des énigmes, avec des voyages, presque des collages de littérature de temps en temps. Donc c'est un livre très sérieux sur l'Alzheimer et que vous l'avez coécrit avec votre épouse Christine Magistretti. Merci beaucoup, ce fut pour moi une lecture passionnante et très très presque divertissante. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.